Ça vous dérange ? Ça vous dérange ? Éric Lange. Ça vous dérange ?
Le chamanisme va-t-il devenir une nouvelle religion occidentale ? Si vous avez un avis, n'hésitez pas, j'ouvre le standard 01 45 24 7000, 01 45 24 7000 pour participer à notre discussion. Si vous voulez mettre des réflexions aussi sur internet, franceinter.com. La question est posée d'ailleurs, comme chaque jour dans Ça vous dérange, dans notre petit sondage. Alors pour l'instant, vous êtes 62%, vous dites non, ce ne sera pas une religion occidentale, 16% disent oui et 20% ne se prononcent pas.
L'expérience mystique n'est pas une pratique intégrée à nos cultures, et pourtant j'ai senti son appel. Je suis allé les voir, eux, les indigènes, les chamans, ces sorciers qui soignent avec des plantes psychotropes. En portant le verre à mes lèvres, je ne savais pas encore que je m'étais embarqué pour un voyage sans retour.
Vous êtes revenu finalement alors du voyage sans retour, Yann Kounen?
Oui, j'étais sérieux.
C'est Yann Kounen que vous venez d'entendre, extrait de son film Other Worlds, qui est un documentaire, hein. Vous êtes suivi vous-même, allant filmer vous-même, allant pratiquer des expériences chamaniques, on dit, ou...
C'est en fait un documentaire. J'avais rencontré donc les guérisseurs amazoniens, et suite à cette rencontre, je me suis dit qu'il y avait un film à faire, et en même temps, c'est surtout une enquête, où je suis allé voir un petit peu des scientifiques de par le monde, des gens qui, dans mon système de réalité occidentale, pouvaient me donner un regard aussi sur une chose qui était très forte, très mystérieuse et qui relevait d'une véritable connaissance. Après, moi, je me suis mis dans le film parce que c'était à un moment donné le lien, mais seulement vers la fin du montage, parce que sinon c'était trop dirigé. Il fallait que je dise dans le film que je faisais partie, enfin, voilà, que c'était de l'intérieur, sinon c'était...
On va reparler de tout ça, vous l'avez compris, Yann Kounen est en studio avec nous. Yann Kounen, réalisateur d'Oberman, Blueberry, 99 francs. D'ailleurs, on en reparlera, mais œuvre bien imprégnée de vos expériences. Enfin bon, on en reparlera tout à l'heure. Marie Lorchy qui est aussi avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue suisse.
Oui.
Je ne sais pas si c'est important ou pas, mais bon, voilà, vous êtes suisse. Vous aussi, vous avez beaucoup travaillé sur le chamanisme, vous avez fait plusieurs séjours dans la même région, d'ailleurs, au Pérou que Yann Kounen, et vous aussi, vous avez fait l'expérience chamanique. Alors, on en parlera, on va essayer de déblayer le terrain en commençant par... est-ce que l'on peut définir le chamanisme ? Je me tournais d'abord vers l'anthropologue. C'est quoi ? C'est une religion,
c'est une religion pour certains, une idéologie pour d'autres. Partant du principe que c'est une religion, dans cette religion, le monde est conçu de façon dualiste. Il y a le monde visible et le monde invisible. Il y a aussi une conception dualiste de la personne. Il y a l'âme ou les âmes et le corps. C'est aussi une communication avec le monde invisible, justement, qui est entretenue par le chaman. Et puis, une fonction sociale. Le chaman doit résoudre toutes sortes d'infortunes et rétablir des équilibres psychologiques, biologiques, sociaux,
etc. Ça ressemble à une religion aussi.
Donc, il a vraiment un rôle central, le chaman. Il intervient dans la gestion des ressources naturelles, il intervient aussi dans tous les rituels de passage. C'est aussi un medicine man, un sorcier, on le dit moins, mais c'est aussi quelqu'un qui ensorcelle parfois. Donc le chaman a vraiment un rôle très important.
Vous pensez, vous, si on essaie de répondre à cette question, qu'aujourd'hui... D'abord, d'où vient le chamanisme ? C'est très ancien.
D'où vient le chamanisme ? En fait, le terme chaman est un terme qui a été emprunté au 19e siècle au peuple tongous de Sibérie par des explorateurs russes, et puis ensuite qui a été appliqué à d'autres pratiques religieuses qu'on trouvait similaires à celles qu'on avait découvertes en Sibérie.
Donc c'est en Sibérie, c'est en Amérique du Sud.
Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, on parle de chamanisme en Amérique du Sud, en Asie, voilà, partout. En Afrique, on parle moins de chamanisme et plus de possession.
Mais c'est le même principe ? Enfin, c'est la même idée, vous pensez ?
Alors, si on ne parle pas de chamanisme et de possession, c'est parce que dans le chamanisme, donc c'est l'âme du chaman qui voyage dans le monde des esprits, alors que dans la possession, c'est des esprits qui possèdent les êtres humains. Mais la limite est floue. Hein. J'ai aussi rencontré des chamans qui se faisaient posséder par des esprits.
Ça va pas être simple. Yann Kounen, suite à vos expériences, est-ce que vous avez une définition différente du chamanisme ?
Moi, j'ai une connaissance très limitée du chamanisme comme terme récurrent, quoi. C'est-à-dire, je connais uniquement la, on va dire, la médecine traditionnelle à l'intérieur du peuple Shipibo d'Amazonie. Donc c'est quelque chose de, que je connais bien, ça fait 9 ans que je vais régulièrement et que, mais voilà, après le chamanisme c'est un terme vaste. Alors moi j'avais envie de dire que pour moi aujourd'hui dans ces pratiques là et dans le territoire limité de ma connaissance, hein, je dirais que le chamanisme n'est pas une religion, c'est une pratique de guérison, c'est une médecine traditionnelle, aujourd'hui, hein, ce qu'il en reste vraiment dans l'activité. Et donc la question ne se pose pas, en fait, pour moi, dans ce que je connais, en tout cas concernant le chamanisme, disons la médecine traditionnelle de l'ayahuasca, des Shipibo et des différents peuples du langage pano d'Amazonie péruvienne. Aujourd'hui, c'est une médecine. On aura médecine chinoise, on a différentes choses, et on a une médecine. Bien sûr, la médecine amazonienne emploie des plantes, emploie et travaille avec un système qui est autre de réalité, hein, qui a une dimension ésotérique, mais le but, le centre, reste une dimension de médecine, et non pas de religion, dans le sens où on ne va pas pour prier, mais pour se faire soigner.
On essaiera de répondre plus profondément à la question tout à l'heure, mais juste rapidement pour essayer de voir. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'Occidentaux qui se tournent vers le chamanisme. Moi, ça me fait penser un peu dans les années 70, les babas se tournaient vers l'hindouisme. Après, plus récemment, on s'est tourné vers le bouddhisme. Est-ce que aujourd'hui, les Occidentaux se tournent vers le chamanisme comme une recherche de spiritualité, à votre avis, Marie-Laure?
Bon, alors ça, c'est vraiment une question complexe. Vous avez dit, dans les années 70, on se tournait vers l'hindouisme, et puis aujourd'hui, c'est le chamanisme. Alors qu'en fait, déjà dans les années 70, il y avait un grand attrait pour le chamanisme chez les Occidentaux. Il y avait déjà Carlos Castaneda qui a sorti son livre, qui a eu énormément de succès aux États-Unis et en Europe.
Petite parenthèse sur Castaneda, finalement, c'est un escroc ou pas? Alors, on disait qu'en fait, il avait tout imaginé.
Voilà, donc on lui a retiré sa thèse.
Ouais.
On lui a retiré sa thèse parce que, donc dans le milieu académique, ce qui se dit, c'est que il aurait en fait inventé de toutes pièces son histoire, et puis qu'il se serait inspiré de différents écrits au sujet du chamanisme pour créer son histoire. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas?
Bon, on développera tout à l'heure. Je veux juste avoir une question. À votre avis, est-ce que les Occidentaux aujourd'hui considèrent le chamanisme comme une nouvelle religion, ce que vous avez rencontré là-bas?
Comme une religion, je ne pense pas. Du point de vue des Occidentaux qui vont faire l'expérience du chamanisme, c'est plutôt le côté médecine, médecine alternative, mais aussi spiritualité alternative. Voilà, c'est ces deux aspects-là. Mais en général, ils n'utilisent pas le terme de religion. Ils ne disent pas « j'ai découvert une nouvelle religion ». Chez des chamans.
Yann Koudan, vous alliez chercher combler un vide spirituel ou pas?
En quelque sorte, si on dit que c'est une médecine, elle va vous rééquilibrer. Si elle vous rééquilibre, c'est aussi comme ça. Hein, c'est souvent la maladie vient d'un déséquilibre de soi par rapport à soi, de soi par rapport au monde. Et notamment dans nos sociétés, je dirais, pour moi, c'est le rapport à la nature, le rapport à des choses essentielles comme le rapport à la mort, comme le rapport aux morts, aux vivants, ces questions fondamentales qu'on a tous inscrites en nous. C'est vrai que cette médecine-là, sur cette partie, et là on peut l'appeler spirituelle, mais elle peut être aussi presque sentimentale, elle peut l'être de l'ordre de quelle pensée on a vis-à-vis du vivant, de quelle pensée, de quelle sensation on a vis-à-vis du monde. Et du point de vue de notre culture, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu tué le vivant hors de l'homme. Et que dans le monde indien, si les Indiens disent qu'il y a des esprits aux plantes, c'est qu'elle leur donne la notion d'être d'ancêtre. D'ailleurs, avant les humains, il y avait des plantes, et il y a une vie et une communication, un partage à faire, et donc un regard à même hauteur. Je dirais qu'une des choses principales, c'est vrai que c'est ce rééquilibrage. Moi, je suis allé vraiment chercher des expériences métaphysiques au départ, et je les ai eues, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, elle m'avait rééquilibré. C'est simplement qu'après, on est un peu plus tranquille, qu'on est peut-être un peu moins emporté par le monde par son monde à soi de cinéma. Moi, par exemple, une des choses dont m'a guéri, m'a guéri les Indiens, à un moment donné, c'est de m'avoir un peu calmé par rapport au cinéma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'étais à voir des films, à lire, à être que dans un monde qui est virtuel, qui est magnifique, qui est le monde de l'imaginaire, de la création. Mais qu'à un moment donné, il y a la vie, il y a des gens, il y a la culture, il y a simplement des choses plus simples. Et de trouver, en fait, l'équilibre, c'est-à-dire de définir une certaine, donner une certaine énergie à son travail et à sa création, c'est fondamental, bien sûr, et c'est important, mais de ne pas délaisser d'autres pans. Et donc, en ce sens-là, d'un point de vue psychologique, je ne suis pas allé chercher ça, mais c'est ce que j'ai trouvé.
Alors, il y a une question que tout le monde se pose, et on va avoir vos réponses dans un instant. C'est parce que vous avez pratiqué donc, ces expériences pour de vrai en mangeant la plante là, qui s'appelle...
On la boit, l'ayahuasca.
Ouais, l'ayahuasca, voilà, cette fameuse plante. Vous l'avez fait, vous avez eu des visions. On va en parler dans un instant. Vous allez nous raconter ça, et puis on reviendra tous ensemble sur cette histoire de rapport entre ces traditions, ou ces religions, ou ces médecines, je ne sais plus ce qu'il faut dire, et nos traditions et nos visions à nous, occidentaux du monde. Est-ce que tout ça peut aller ensemble? 0145 24 7000, bien sûr, si vous voulez nous rejoindre. Voici Sporto Cantès sur France Inter.
0145 24 7000 ou sur franceinter.com.
Not mine. I can't deny what I can't see. You're just the one who cares for me. But I wanna be free.
Well, I can't be the.
Je pénètre en quelques minutes le monde des visions. Ils chantent, je me détends enfin. Les yeux mi-clos, j'observe un lambalé de serpents qui laisse place à des crocodiles. Je suis surpris car c'est la première fois que j'ai une telle vision. Je ressens l'extase et la laisse lentement pénétrer mon corps. Puis son chant s'arrête et je flotte seul en moi-même. Les visions s'assombrissent. Je sens la terreur qui emplit mes organes. Ils me crient leur existence. Mon ventre se noue. Mon esprit ne peut accepter d'être lié à cet amas de chair palpitant.
Vous n'aimez pas trop vous réécouter, Yann Kounen?
Non, je trouve que je suis très sérieux, mais j'étais un peu sensible à cette période-là.
Donc, on va essayer de raconter l'expérience. On va commencer avec l'ethnologue, hein, Marie Lorchic. Comment ça se passe? Donc, il y a une plante?
Voilà, un breuvage.
Ouska, je finis par y arriver.
Un breuvage qui est préparé avec, en mélangeant, en tout cas, deux plantes, l'ayahuasca, une liane, et puis la chacruna, un arbuste, les feuilles d'un arbuste. Et puis, les deux ensemble créent un effet hallucinogène. Voilà.
On prend cette plante.
Et donc, on fait cuire ça pendant 10 heures, ce que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu.
Je fais une parenthèse, ne le faites pas à la maison, merci. Les moins de 16 ans.
On cuire ça pendant des heures et ouais. Ensuite on boit ce breuvage qui a un tout petit peu de ce breuvage qui est très amer.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous vomissez, vous n'êtes pas bien?
Alors oui, la majorité du temps on vomit, pas tout le temps, mais souvent. Et puis assez rapidement, on commence à avoir une série de visions. Alors moi, j'ai fait qu'une fois l'expérience de l'ayahuasca. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'était en Suisse.
Ouais. Pourtant, vous êtes allé
avec
plusieurs fois
amazonien.
Pour travailler en Amazonie, et puis il a fallu voir, vous êtes revenu en Suisse pour faire l'expérience.
Voilà, parce que les premières fois que j'allais en Amazonie, j'y allais pas particulièrement pour connaître des chamans ou tester l'ayahuasca. D'ailleurs, la première fois, il y a 12 ans, je n'avais jamais entendu parler de chamanisme. Donc c'est petit à petit que je me suis intéressée au sujet. Et la dernière fois que j'étais en Amazonie, c'était pour y faire une recherche justement sur le chamanisme. Et là, j'ai évidemment pensé à essayer l'ayahuasca, mais j'avais pas envie de le faire pour le faire. C'est-à-dire, j'avais envie de... J'ai demandé au chaman avec lequel j'ai fait mon étude s'il pouvait m'initier au chamanisme, chose qu'il a refusé de faire en me disant qu'on avait trop peu de temps. Et alors, je me suis dit, bon, bah tant pis... En plus, il n'avait pas d'ayahuasca dans son petit jardin, donc je ne l'ai pas fait.
Et qu'est-ce que vous... Alors,
et en revenant en Suisse, j'entends parler d'une cérémonie dirigée par un chaman amazonien, en collaboration avec une chamane ou néo-chamane, là aussi, il faudra qu'on en parle, suisse, qui l'invitait. Et j'avais envie de voir, en tant qu'ethnologue, comment ça se déroule, une cérémonie avec un chaman amazonien et des blancs. Des gringos, une vingtaine de gringos dans un chalet dans le Jura, voir comment ça se déroule. Et là, l'organisatrice a refusé que j'y participe sans prendre moi-même l'ayahuasca avec l'argument selon lequel je ne pouvais pas comprendre sans expérimenter. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, bon, je me lance, j'essaye. Depuis le temps que j'hésite, oui, non, j'essaye. Et donc, pour résumer l'expérience,
c'est impossible. Alors, je pose la question impossible, c'est qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez ressenti. Je sais que tous les gens qui ont fait ce genre d'expérience me disent tous, c'est difficile à raconter, on ne peut pas raconter. du coup, on va en reparler avec Yann Kounan. Vous l'avez recréé en 3D, on le voit un peu plus ce que vous avez vu, on voit dans le film. Mais alors, vous, Marie, alors comment vous pouviez me résumer ça? C'était terrifiant, c'était attirant, c'était
bizarre. Alors moi,
pour
moi, c'était terrifiant. Maintenant, pour d'autres personnes, c'était une expérience fantastique, mais je dirais que pour beaucoup, quand même, c'était une expérience terrifiante dans laquelle ils devaient faire face à leurs peurs. Et c'était mon cas.
En fait, vos peurs
Voilà, des angoisses, des peurs qu'on ne soupçonne même pas qu'on a, d'ailleurs. Il y a tout qui ressurgit. Et puis aussi, les chamans parlent souvent de la purge. Le fait de vomir, c'est se nettoyer. J'étais assez sceptique au sujet de cette purge-là. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'au moment où ça m'est arrivé, je me suis purgée, j'avais toute une série de visions, de choses que j'ai vécues depuis l'âge de 5 ans, qui se succédaient. Et puis qui devenait vraiment insupportable.
Une purge de la mémoire en même temps qu'une purge physique.
Il fallait que je les expulse. Et puis quand je les expulsais, c'est ça que j'ai expulsé en fait. C'est vraiment, je les ai vus sortir de moi, ces situations-là, ces situations négatives. Donc ça, c'est une chose surprenante. Maintenant, qu'est-ce que j'ai vécu encore? Il y a eu...
Vous avez vu... Est-ce qu'il y a quelque chose... Parce que Yann Kounan parle beaucoup des serpents, il montre ces histoires de serpents. Tout le monde parle des serpents. Yann Kounan, vous les avez redessinés, même vos visions, en 3D, pour nous montrer, essayer de nous montrer, j'imagine, ce que vous avez vu.
Alors, oui, c'est vrai que les visions, c'est compliqué. C'est normal que ce soit compliqué pour tout le monde de verbaliser autour, puisque c'est un autre langage. C'est-à-dire, c'est pas un langage mental, c'est un langage d'images, de sensations unifiées, de sentiments. On perçoit des choses, d'un coup, on va dire une nausée, une peur ou une extase, et d'un coup elle semble liée aux images qu'on voit. Donc c'est une manière de se lire soi, de comprendre des choses sur soi et sur le et aussi des choses sur le monde, on va dire, en tout cas d'y être plongé. Et ça, c'est pas d'ailleurs reproductible dans un film, le sentiment. Ouais. Mais donc après, de décrire vraiment les visions sans décrire exactement le sentiment qui est lié et ce langage, et parler de ce langage avec des mots, c'est très compliqué. C'est un autre langage. La musique est un langage pour parler des sentiments, et avec la musique, on va toucher une forme on va communiquer aux gens des choses. Et bien, ces plantes semblent communiquer avec le guérisseur qui guide ce voyage dans un langage différent. Difficile d'en parler, donc moi je botte en touche en disant effectivement j'ai recréé les images, puisque le langage du cinéma c'est des images en mouvement. Il manque la sensation, j'essaie des fois d'en parler, et dans Blueberry j'essaie de montrer la force de l'expérience et de rester dans le langage de l'expérience. Donc bien sûr c'est un petit peu mystérieux, mais avec d'autres mondes de documentaires on explique plus ça. Donc voilà, à partir de ça, moi ce que je peux dire, c'est que voilà, j'ai fait ça fait des années, c'est cohérent comme système.
Vous dites toujours que c'est très réel. Tout à l'heure, pendant le 10, vous me disiez en fait la réalité n'existe pas, c'est une hallucination collective. Ce que nous voyons tous là, pour vous, c'est une hallucination, et finalement, ces pratiques vous permettent de voir une autre hallucination.
Non, c'est souvent quand on dit oui, ce monde où le monde visionnaire ou le monde du rêve est quelque chose qui est non réel, et que notre réalité matérielle, bah oui, c'est ce qu'on a appris, ça, on est devenu les maîtres de la matière. Mais en retour, on ne pense qu'à cette réalité-là. Or que si on étudie même avec la science la nature de notre réalité, c'est une sorte effectivement d'hallucination, puisque c'est des molécules qui vont c'est la sérotonine qui va se ficher dans nos neurorécepteurs et qui fait qu'on a collectivement, on partage un réel. Mais si d'un coup, au même endroit, on s'endort, ou on va avoir une autre molécule venant d'une plante, d'ailleurs, qui ne la fabrique que pour les mammifères. Enfin, en tout cas, on n'a pas découvert d'autres utilisations. Est-ce que c'est pas pour communiquer et du coup avoir un langage un petit peu commun, ou un endroit de partage, de la même manière que les plantes fabriquent, elles forment les arrière-trains d'abeilles pour être pollinisées. Elles vont imiter des choses. Est-ce qu'avec des créatures évoluées, elles vont pas à travers certaines plantes? C'est un jeu métaphysique, hein. Mais ou c'est une question philosophique, ça m'aimerait bien savoir pourquoi elle ne fabrique pas ces molécules, pourquoi ces molécules sont des clés qu'elle ne fabrique pas pour elle, enfin on n'a pas encore trouvé, et qui se fichent dans ce qui est le plus important au sein de notre cerveau, qui nous fait passer, le même neurorécepteur qui nous fait passer du monde du rêve au monde de notre réalité. Donc telle une hallucination collective.
Ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sur France Inter. Lily est avec nous, bonjour Lily.
Bonjour à tous.
Bienvenue.
Bonjour.
Dans l'émission.
Merci.
Vous aussi, vous avez vécu des expériences de ce style?
Oui, bah en fait, moi, je suis partie un an en Amérique du Sud en voyage avec mon copain. Et au bout d'un certain temps, on s'est séparés, il y a des grosses crises, enfin, bref. Et je retourne au Pérou, on venait de passer 3 mois, on était en Équateur à ce moment-là. Je retourne au Pérou, donc moi, très très mal, sale état. Je vivais avec des amis, pas dans une zone touristique, donc il y avait plein de blancs. Et un village qui était desservi une fois par jour par un car le matin, perdu à 100 km de tout autour, enfin voilà. Et donc là, un jour, une personne arrivait vers moi, directement du bord de la route, en fin de journée, donc on savait pas d'où il arrivait, on l'avait pas encore vu. Il vient vers moi, il discute un petit peu avec moi, et du coup, j'ai tout de suite ressenti la confiance, et je suis partie avec lui sur la plage. Donc là, j'ai parlé, lui, il a parlé. Il a commencé à chanter. Là, en fait, on a fait le rite de l'ayahuasca. J'ai pris l'ayahuasca et donc j'ai fait le voyage. Et en fait, en rentrant en France, je me suis renseignée, parce que moi, le chamanisme, je connaissais à peu près, mais je savais pas vraiment ce que c'était, pourquoi cette personne était venue à moi, qu'est-ce que ça signifiait. Et puis je continue encore à comprendre ce qui m'est arrivé et à l'analyser, quoi. Et du coup, voilà, et quand je suis rentrée en France, je me suis renseignée et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de gens qui aujourd'hui proposent des séminaires comme en Suisse, en Autriche, en France, pour faire des séances de collectives, pour prendre de l'ayahuasca. Et j'ai un peu du mal à l'entendre, parce qu'après m'être renseignée, je me suis quand même rendu compte que Le chaman vient à toi. Après, est-ce que toi, tu dois aller au chaman? Je sais pas trop. Moi, tous les gens avec qui j'en ai parlé, qui ont fait l'expérience d'y aller et de payer, parce qu'en Amérique du Sud, on peut aussi payer pour aller voir un chaman, des séances à 100-200 dollars. Et ça a toujours été des choses un peu violentes et difficiles à vivre. Donc, j'ai un peu du mal à concevoir qu'on puisse vivre ça en Europe, nous, les Occidentaux, enfin, ici, quoi. Je veux dire, en France ou en Autriche ou en Allemagne ou n'importe où, j'ai un peu du mal à comprendre. Cette plante, elle pousse là-bas, elle pousse pas ici. Les chamans, c'est un voyage, en tout cas pour moi, inconcevable sans la présence de justement, ce guide qui est à côté pour nous aider, quoi. Voilà.
Merci Lily. Merci en plus de me permettre de basculer dans l'autre partie de l'émission. C'est voilà, est-ce que tout ça est adaptable en Occident à votre avis? En tout cas, Elisa Portier, qui est journaliste, a rencontré un chaman à Lyon, un Français. Il n'est pas péruvien ni rien. Et voilà la rencontre d'un chaman lyonnais.
Juste entre les grues, là, on voit quand même il y a la lune encore, même si on est le matin, il est 10h, et on voit quand même la lune. Alors on avance, on est maintenant de plus en plus près, on voit la Saône sur notre droite, le Rhône sur notre gauche, puis on continue à avancer. On va aller vraiment jusqu'au bout, là, l'endroit, là on a encore 2 mètres de chaque côté, mais après on a les pieds dans l'eau. Et cet endroit, moi je l'aime bien.
Une pointe. Ouais. On traverse le champ d'ortie.
Quand moi je propose de se balader dans Lyon avec une vision chamanique, c'est juste choisir où on porte son attention. Comme un enfant quand il est devant une fourmilière, ben, il n'y a plus que la fourmilière qui existe et il plonge dedans. En se baladant comme ça, on peut choisir ce qu'on voit et on peut affiner sa sensibilité et ressentir des choses. J'allais dire comme dans la nature. Non, pas comme dans la nature. En ville, en assumant le fait d'être en ville, parce qu'il y a des énergies particulières en ville qu'on peut aussi capter. J'ai pas envie de faire de l'angélisme, de faire du chamanisme comme à la Walt Disney, de dire oh, il fait bon dans la nature, on est bien, et je vais aller vivre dans la forêt, je serai heureux. Non, moi je vis en ville, je suis un occidental, je vis en ville. Et dans le chamanisme, ce qui est important, c'est la notion de pragmatisme. Comme je suis en ville, soit ça m'aide dans ma vie, soit ça m'aide pas, je laisse tomber. Et j'attends pas d'avoir déménagé dans 10 ans et de vivre dans un endroit paradisiaque.
Et voilà, les baskets dans l'eau.
Et en ce lieu, moi ce que j'aime bien, c'est d'imaginer que c'est un peu comme le présent, ce lieu. La notion de fleuve, il y a forcément une notion de temps avec le temps qui passe, le fleuve qui passe. On se baigne pas 2 fois dans la même eau. Donc les fleuves, les rivières, les cours d'eau, pour moi, sont très reliés au temps. Et là, c'est l'éternel présent, quoi, ce lieu où je suis. Et puis j'ai mes ancêtres. Les ancêtres du côté de mon père, quoi, si je remonte le Rhône. Et j'ai mes ancêtres du côté de ma mère, si je remonte la Saône. Alors si j'ai un travail à faire, je peux décider de remonter, mais physiquement, je préfère le faire de nuit. Me balader, là, dire tiens, aujourd'hui, je vais remonter la branche, là, voir où ça se passe. J'ai juste, moi, être dans un état d'ouverture particulier. Ça se travaille avec le tambour, ça se travaille avec plein de choses en chamanisme, ce qu'on peut appeler un état de conscience élargie. Il n'y a besoin de rien prendre pour être dans cet état de conscience élargie. Et puis là, il va se passer des choses. Et on va avoir des rencontres. Et dans le monde chamanique, tout est signe. Puis les ancêtres, c'est important en chamanisme. Voilà, c'est des esprits particuliers qui peuvent nous aider, qui peuvent être maléfiques. Mais voilà, c'est pareil, c'est pas manichéen, maléfique. C'est si j'ai quelqu'un dans ma famille qui m'a toujours interdit de faire quelque chose, ben, il a beau être mort, j'oserais peut-être pas faire cette chose-là, quoi. Inversement, j'ai peut-être un grand-père qui prenait soin de moi, qui m'aimait. Et le simple fait de l'évoquer, de penser à lui, est-ce que c'est son esprit qui est présent? Oui, c'est ce qu'on dit en chamanisme. Est-ce que c'est son esprit? Je sais pas, je m'en fous. Ce que je vois, c'est que ça marche.
On le fait pas exprès, hein. Les hélicoptères, les tronçonneuses, on aurait voulu préméditer tout ça, on n'y serait pas arrivé.
On a bien organisé tout ça, on a bien organisé notre coup. Magnifique coup monté.
Marie-Laure Chic, donc vous aussi vous avez rencontré des chamans en Suisse, dans le Jura. C'est exportable? On peut comme ça pratiquer le chamanisme au milieu des travaux du monde moderne? Des tronçonneuses, des hélicoptères?
Oui, bah ça se fait, donc c'est faisable.
Ça vous semble sérieux ou pas?
J'ai pas de réponse à cette question. C'est peu importe en fait si c'est sérieux ou pas. C'est point. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nette différence entre le chamanisme traditionnel amazonien, par exemple, et puis le chamanisme occidental qu'on appelle en ethnologie de néo-chamanisme pour le différencier du chamanisme traditionnel justement, qui est souvent urbain. Ça ne veut pas dire qu'il se pratique en général dans des milieux urbains, même si ça arrive, on vient de l'entendre, mais qu'il se développe, que les adeptes du néo-chamanisme viennent du milieu urbain. Et les différences majeures entre le chamanisme et le néo-chamanisme, alors les ethnologues l'ont tout de suite fait remarquer et puis ont tout de suite parlé des caractéristiques négatives du néo-chamanisme, comme pour dire, justement, comme le disait l'auditrice tout à l'heure, que c'est plus vraiment du chamanisme, que c'est un chamanisme inauthentique par rapport à un chamanisme authentique que serait le chamanisme traditionnel. Et puis qu'il s'agit aussi d'une marchandisation des savoirs chamaniques, que les Occidentaux simplifient le chamanisme, ou encore que ceux qui se rendent en Amazonie pour faire l'expérience, en Amazonie parce que c'est ce que je connais, pour faire l'expérience du chamanisme, c'est une forme de néocolonialisme. Alors là, ils ont beaucoup insisté sur tous ces aspects négatifs du néo-chamanisme, qui sont des aspects, à mon avis, qu'il faut prendre en compte. Mais ce qui est dommage, c'est que la majorité des ethnologues se sont arrêtés là, comme si le néo-chamanisme ne valait pas la peine d'être considéré comme un phénomène social qui doit être étudié comme un autre. Et là, je pense que c'est une erreur. Et puis qu'il faut s'intéresser au néo-chamanisme de la même manière qu'on s'intéresse au chamanisme.
Je m'attends à Yann Koudan, vous avez l'air de... Non ?
Non, moi, de tout ce que j'ai entendu, je trouve déjà le premier témoignage sur l'Amazonie et la rencontre qu'a fait cette femme et tout, c'est ce qu'elle dit. En même temps, elle a fait cette rencontre-là. Mais en même temps, moi, je reviens toujours à ce principe, il faut pas... On a tendance à se monter des gros cirques, souvent, autour du chamanisme, du chaman, une sorte de mélange de sage hindou, maître de la forêt, ascète, etc. Non, c'est un médecin. C'est un homme, c'est un médecin. Donc, à partir du moment où c'est un médecin traditionnel, d'une médecine traditionnelle, aujourd'hui, vraiment, ce que les Occidentaux rencontrent, voilà, a priori, s'il tombe sur le bon, c'est ça, c'est de ça dont il s'agit. Donc à partir de ce moment-là, il est logique qu'il y ait un échange d'énergie, d'argent, donc...
Mais c'est un médecin plus comme un psy que comme un vrai médecin, il peut pas soigner...
Il peut soigner des choses... Ils ont une connaissance de la pharmacopée des plantes, hein, parce qu'on parle d'ayahuasca, mais des fois, il y a 100 plantes dans le breuvage qu'on va prendre, il y a les plantes les plus importantes... au sein de la médecine traditionnelle Shipibo, les plantes maîtres ne sont pas l'ayahuasca, sont d'autres plantes qui sont derrière, qui ne sont pas psychoactives, que l'on combine dans des diètes longues d'isolation dans la forêt. Et ensuite, on va prendre l'ayahuasca. L'ayahuasca devient une porte pour rentrer dans le monde de ces plantes. Donc c'est beaucoup plus... C'est assez complexe comme système. Hein. Mais voilà, il faut rappeler, regardez, allez, si vous voulez avoir une bonne démarche, allez voir thérapeute, un médecin qui travaille avec un autre système. C'est effectivement très fort, c'est important, ce serait l'équivalent d'une chirurgie de l'âme peut-être, c'est-à-dire à un moment donné une expérience forte et qui n'est pas anodine, qui n'est pas quelque chose de forcément récréatif. Et regardez si c'est positif pour vous, c'est toujours ça, c'est une chose qui est importante. Maintenant, voilà, ça c'était pour la première réponse, parce qu'après on a une expérience, puis on se dit mais comment, on va demander de l'argent. Mais non, regardez comme un médecin, et ça simplifiera votre relation à l'homme, qui est le chaman, sans le mettre sur un piédestal surdimensionné et de le regarder comme un thérapeute dans une autre branche d'une médecine un peu inconnue pour nous, un peu mystérieuse, mais qui reste ça. Comme ça, psychologiquement, votre relation avec la personne sera juste. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport au chaman urbain, moi, je trouve ça très, très bien, c'est pas de la médecine traditionnelle indigène, on est d'accord. Et c'est pour ça que nous, pour l'instant, le chamanisme, c'est tout et rien. C'est un mot qui évoque plein de mystères.
Bah, j'essaie de le définir, j'arrive toujours pas.
Mais voilà, donc moi, dans... Qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un qui hallucine sa propre réalité. Hein, c'est-à-dire sa réalité faite d'une chose psychique qui est le fleuve, les ancêtres, le remonter, faire des actes symboliques. Voilà, il sort de l'hallucination collective pour créer la sienne, qui est liée à des choses qu'il ressent, à des choses qui existent dans différentes traditions. Il y a quand même des on va dire des troncs communs entre certaines mêmes religions et certaines pratiques chamaniques, puisque moi je pousse pour le côté médecine. et ce que je trouve très joli, ce qu'il raconte et ce qu'il vit. Et moi aussi, quand je suis en ville, je me dis pas oh là là, au secours, non, il faut apprendre à vivre. Moi, une des choses que j'ai appris à un moment dans la jungle, c'est d'être bien partout, au fond du métro, dans quelque chose qui est difficile avec une mauvaise atmosphère. Il faut soit être bien là, c'est peut-être plus facile dans la nature, mais ça fait partie d'une des choses. C'est une médecine, elle vous rééquilibre. Donc, moi, je trouvais bien ce témoignage-là.
Juste une chose qu'on n'a pas précisé, cette fameuse plante, elle est interdite en Europe, on peut... elle est considérée comme une drogue, comme un... c'est dans la liste des stupéfiants.
Cette plante est interdite en France. Elle est, après, sur la législation, je crois qu'il y a plusieurs... Je crois qu'elle c'est autorisé en Espagne, en Belgique, en Suisse. Donc voilà, pour l'instant, c'est une chose en mouvement sur la législation. Voilà, en Amazonie, elle a été au Pérou, elle est trésor national. Elle a été, il y a un truc au Congrès, oui. Donc, elle est reconnue comme une médecine, puisque hein, les Indiens et les indigènes parlent de plantes maîtres, de plantes enseignantes, de plantes de guérison. Donc voilà. Après, chaque culture a son regard sur les choses. Maintenant, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que cette plante a un effet psychoactif fort. Que c'est quelque chose qu'il ne faut pas sortir, de mon point de vue, hein, il ne faut pas sortir du contexte traditionnel, parce qu'il faut que la personne ait une connaissance profonde de la plante, de la médecine pour pouvoir soigner. C'est pas un médicament. Ouais. C'est-à-dire que
c'est pas anodin non plus, on peut pas...
Voilà, donc moi je suis un peu traditionaliste sur ce coup-là, c'est de dire, si vous montez dans une compagnie aérienne, vous n'allez pas prendre des indigènes qui ont acheté deux avions et fait un truc. Moi ouais. Je vais plutôt sur des... On a développé ça, donc si vous allez vous faire soigner, allez avec des gens qui ont eu... plutôt des indigènes, qui ont la connaissance, c'est dans leur culture depuis des milliers d'années, c'est inscrit dans leur monde, dans leur psychisme, dans leur culture, dans leur mythe, tout est intégré pour être au centre de leur culture. Les plantes et le monde des plantes est au centre. Tous les motifs qu'ils dessinent sont des motifs de vision sur leur robe, sur leur artisanat. Ils sont complètement psychologiquement dans cette hallucination de réalité. Nous, on est dans une autre, donc faisons attention à ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, parce qu'on a tendance à se dire si c'est inscrit dans le cadre de drogue, ce n'est quelque chose qui s'est prouvé, ce n'est ni addictif et ni toxique physiologiquement. Donc, c'est à partir et que une dose létale d'ayahuasca, je crois que c'est 6 litres. Ou l'équivalent, c'est-à-dire que c'est d'un breuvage tellement amer qu'on ne peut pas en boire plus d'un demi-verre.
C'est dangereux psychologiquement.
Donc, par contre, voilà, c'est dangereux si vous prenez de l'ayahuasca seul, vous ne savez pas comment... voilà, c'est dangereux. On joue, nous, on est des sauvages dans notre culture par rapport aux plantes psychoactives et à toutes les différentes choses psychoactives. C'est-à-dire, on est sauvage, on est...
On connaît rien,
donc on va d'un coup se prendre des trucs, il y a des accidents, la datura alto est une plante mais très compliquée qu'utilisent les Amazoniens. Il y a des jeunes qui des fois s'en prennent et meurent, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Voilà, il faut... Voilà, maintenant, après, quand un guérisseur amazonien vient dans un pays où c'est possible, en Espagne, en Suisse, en Belgique, des différents, en Hollande... Hollande, je ne sais pas, mais en tout cas là, si c'est avec un guérisseur amazonien, pour répondre à la première personne qui était là, si c'est vraiment un guérisseur, si vous le regardez en tant que médecin, et que vous ne pouvez pas aller en Amazonie, oui, pourquoi pas, si c'est... voilà, bien sûr.
Florian est avec nous. Bonjour Florian.
Oui, bonjour.
Bonjour. Pour revenir un petit peu sur le côté religieux de la chose, alors.
Oui, voilà, moi je ne remets pas en cause la connaissance en pharmacopée des plantes des chamans, mais seulement je trouve que considérer qu'il y a des esprits dans les plantes... Et toute cette mystique, je trouve que c'est des fables et qu'on a passé en Occident plus de 100 ans à se débarrasser du christianisme, enfin au moins intellectuellement. Et je vois pas pourquoi on retomberait dans une religion qui met des esprits partout et qui finalement...
Peut-être parce que finalement on a besoin de ça.
On n'en a pas besoin et puis surtout, on est arrivé à un matérialisme avec des gens comme Marx, Nietzsche ou Foucault et on n'a pas... Enfin, je veux dire, ces gens-là ont déjà démonté... Toute mystique non matérialiste, quoi.
On va conclure là-dessus, d'ailleurs. Tiens, merci Florian, à très bientôt. On se retrouve après Jimi Hendrix sur France Inter. Justement, est-ce que c'est adaptable, tout ça? Est-ce que nous qui avons évacué les religions, est-ce qu'on doit maintenant se tourner vers d'autres et transformer le chamanisme en une nouvelle religion? On termine la discussion dans un instant. Après Jimi Hendrix, donc, sur France Inter.
There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level all the mine. Nobody of it is worth. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late.
Et d'appel pour dire un peu ce que disait Florian, c'est si c'est une religion, si on donne un aspect religieux à la chose, on va retomber dans une forme d'escroquerie. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Laure ? Est-ce que cet aspect religieux vous dérange dans le chamanisme ?
Là, il faudrait savoir ce qu'on veut dire en parlant d'aspect religieux.
Le mythe, les fables qu'il y a autour.
Quand on entend parler Yann Kounen, il met plus l'accent sur
la médecine.
Médecine. Et puis, c'est souvent le cas, mais c'est une médecine qui prend en compte la totalité de l'individu.
Mais on peut pas enlever aussi le côté un peu sulfureux, sorcellerie, esprit de la forêt. Ça existe aussi, c'est là.
Ça existe, mais ce qui est... ce qui m'a frappé, c'est qu'en écoutant des Occidentaux qui s'intéressent au chamanisme, ils parlent d'un monde des esprits. Mais ils parlent d'un monde des esprits qui est un petit peu abstrait. On ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne le nomme pas. Il n'y a pas des esprits personnalisés comme quand je vais parler à un chaman amazonien. Donc on en parle, on entre en contact avec. Et c'est un monde qui permet de se guérir, en fait, c'est ça. Mais sans vraiment... C'est pas quelque chose qui est marquant, aussi marquant que quand je parle à un chaman amazonien.
Yann, ouais.
Moi souvent, on m'a dit, non, mais enfin, vous croyez quand même pas à ce monde-là des esprits, tout ça, ça quand même, vous êtes un... Et bon, c'est pas aussi simple, c'est-à-dire que... faut regarder, nous, par exemple, aller dire à un Indien, bon, ben là, tu vois, tu as un inconscient. Là, il va te le dire, montre-le-moi, donc montre-moi le monde des esprits. Donc, non, mais ça fait un siècle qu'on sait qu'on a un inconscient, un subconscient. Mais matériellement, le montrer et l'expliquer à quelqu'un d'une autre culture qui modélise une réalité autre, c'est difficile. Voilà, donc on peut aussi le regarder. Il ne faut pas partir dans des systèmes... Moi, j'ai du mal avec les systèmes de croyances. Religion... mais un système de croyance. Je crois qu'il faut croire en soi. Il faut pas accepter... On parlait du matérialisme tout à l'heure. On a réussi le matérialisme. Moi, je ne pense pas que c'est une réussite. Je pense qu'on est devenu les maîtres de la matière, mais qu'il y a tout. Il y a l'évanescent, il y a plein de choses. Et que la richesse d'un individu et des cultures, c'est à un moment donné d'élargir et de ne pas rentrer dans un système que notre culture... D'accepter une pensée venant de notre culture, on se limite à... On l'a, et puis après, il faut aller soit vers une expérience de guérison, et puis si on voit quelque chose, on peut après poser des questions, mais on vous explique pas, le chaman ne va pas vous dire, voilà, le monde fonctionne comme ci et comme ça. A priori, un bon guérisseur, il va même pas parler, il va dire, je vais te faire un bon traitement. Et puis après, toi, tu vas peut-être te raconter des histoires, mais c'est toi qui vas voyager, c'est toi, donc est-ce que tu vas essayer de construire peut-être un système de réalité qui est un peu plus le tien, qui va être issu de tes expériences, de ta culture, de tes voyages. Et je trouve que c'est joli comme dimension humaine. On peut accepter certaines pensées venant de profonds matérialistes comme juste. Moi, j'étais assez athée avant je me disais, ils ont quelque chose sur la psyché, forcément, puisqu'ils soignent avec des choses qu'on ne connaît pas. Mais voilà, il faut être ouvert, il faut pas se dire... le matérialisme dont on parle et l'athéisme, c'est pas ne pas croire, c'est croire. On n'est que sur cette planète, on sent que des croyants. On croit qu'il n'y a rien après la mort, mais qu'est-ce qu'on en sait On croit à la limite de l'étude de notre science sur quelque chose. Et on croit, alors il y en a d'autres qui vont croire à autre chose, on n'est que des croyants sur cette planète.
Alors attendez, parce que je regarde l'heure qui file et je voudrais qu'on prenne le temps de discuter avec Gérard Barrière. Gérard, bonjour.
Bonjour Eric.
Ça va bien ?
Ça va très bien.
Retour.
Sauf que je bois un petit peu parce que j'ai entendu tellement de choses qui m'énervaient.
Alors Gérard Barrière, vous êtes philosophe et vous avez travaillé sur l'histoire du chamanisme. Il nous reste vraiment 5 minutes. Donc rapidement, pour vous, il y a quand même une dimension spirituelle dans cette histoire.
Bien sûr. Bien sûr. Mais alors là, j'ai 2 ou 3 petites choses à dire rapidement. Je vais essayer de les serrer. Je vais essayer de me souvenir du temps où j'étais prof d'université. Alors, 1. Le chamanisme n'est pas, à proprement parler, une religion, mais c'est le socle de peu près toutes les religions. C'est le socle presque géologique, comme par tous les plaques tectoniques. Et toutes les religions gardent des traces. 2. Je trouve un peu dommage que dans cette émission, le chamanisme soit trop lié aux hallucinogènes, spécialement à l'ayahuasca. Il y a des tas de chamanismes dans le monde qui se passent complètement d'hallucinogènes. À commencer par exemple par les Esquimaux, parce que dans la banquise arctique, eh ben, ils ne poussent rien.
Ah oui, il n'y a pas besoin forcément d'avoir
Non, il y a des tas d'autres choses, la privation sensorielle, le jeûne, l'expérience de la douleur, il y a des tas d'autres méthodes.
La méditation finalement.
La méditation, bien sûr, les techniques respiratoires. Il y a des tas d'autres méthodes qui permettent à atteindre ce qu'on appelle des états modifiés de conscience. Bon, donc il ne faut pas lier forcément le chamanisme aux drogues, j'aime pas le mot, mais enfin c'est comme ça, et encore moins seulement à l'ayahuasca, ça serait bon. Troisièmement, le néo-chamanisme urbain et moderne. Alors ça m'horripile profondément.
Ah bon?
Je pense que c'est absolument c'est entre la grande fantaisie romantique et l'escroquerie la plus totale. On ne peut pas, c'est pas possible.
Pour vous, on peut pas pratiquer et avoir ce genre de démarche si on n'est pas.
Non, parce que le chamanisme, ça suppose avant tout, d'abord et avant tout, un contact entre l'esprit et la nature. Que cette nature, ce soit les eaux, les plantes, les nuages, les animaux. Je vois pas tellement de... Bon, alors il y a des tas de gens, effectivement, qui font croire qu'ils sont chamans. Ils peuvent être bretons, andalous, suisses, ce qu'on voudra. Et c'est une très bonne affaire, ça marche très bien pour eux. C'est beaucoup plus facile d'être chaman urbain que d'être chercheur en matière de chamanisme, d'une manière un petit peu sérieuse. Et c'est beaucoup plus rentable.
Gérard, je vous arrête, on a bien compris, parce que là, il faut, je regarde, l'heure passe, il faut qu'on conclue. Merci d'être passé rapidement. Oui. Non, merci d'être passé, Gérard, je voudrais conclure. Juste un mot, Marie-Laure Chic. Gérard vient de dire que c'est impossible d'exporter ces visions du monde en Occident, à votre avis?
Non.
C'est possible.
C'est possible, et ça se fait maintenant. Il y a ce qu'on en pense, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une bonne partie des chercheurs ne peuvent pas, et qui ont étudié le chamanisme traditionnel de près, ne supportent pas de voir des Occidentaux se réapproprier des traditions chamaniques qu'on dit traditionnelles. Maintenant, moi, en tant que chercheuse, je me pose la question de quel droit. Moi, en tant qu'ethnologue, je peux juger ce qui vaut la peine d'être étudié ou non. De quel droit est-ce que je peux juger que tel chamanisme est authentique et que telle autre forme de chamanisme ne l'est pas? Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour voir, pour observer les choses autour de moi, pour voir de la manière dont laquelle le chamanisme évolue aujourd'hui en Amazonie, avec les locaux, le chamanisme en Amazonie avec des Occidentaux, et des Occidentaux qui sont là, qui se réapproprient des traditions chamaniques du monde entier, et de voir ce qu'ils en font. Donc, voilà.
Oui, Yann Collins, ce que l'on entend là, c'est effectivement tiré de... C'est extrait de votre film, c'est les chants.
Oui, moi je voulais juste donc dire par rapport à ce que j'ai entendu que j'étais en grande partie d'accord. On n'a pas parlé du chamanisme, on a parlé de la ayahuasca. Alors chamanisme de l'ayahuasca, médecine ouais. traditionnelle, c'est non mais c'est bien,
mais c'est une assez tendance assez forte quand on parle chamanisme, on parle souvent
oui ayahuasca, mais en même temps c'est vrai, c'est état de conscience modifié, le tambour, la méditation, le jeûne, toutes les cultures dans le monde entier. Ce qu'il a dit sur le socle des religions est très juste aussi. Après, sur sa notion de néo-chamanisme, je suis un peu plus détendu là-dessus, mais je vous l'ai dit au début, moi je ne parle que d'une petite branche, on ne parle que d'une petite branche du chamanisme, et la médecine traditionnelle d'ayahuasca, c'est plutôt un petit peu le sujet qui a été aujourd'hui ouais. abordé. Donc, et l'autre chose, c'est moi je suis de toute façon plus conservateur ou à me dire oui, il y a les Indiens qui savent. Le reste, pourquoi pas? On peut faire des choses, on va pas empêcher les gens de faire des choses et tout. Mais attention parce que c'est un art de guérison qui vient d'une culture, qui a un socle profond, qui est quelque chose de très fort. Donc oui, faites attention des gens qui se le réinventent, parce qu'on arrive, comme la personne dit, alors on sait pas comment, le chaman, alors parce qu'il va d'un coup faire un petit chant, il va être bien. Savoir reconnaître vraiment l'efficacité thérapeutique d'un chaman, c'est quelque chose qui demande
alors, un travail. Alors, pour aller plus loin, parce que vous avez compris, c'est très difficile à cerner ce sujet, on s'est lancé dans une histoire, mais bon, après tout, pourquoi pas. Il y a le film donc de Yann Kounen, le documentaire Other Worlds, qui est en DVD, un livre aussi qui vient de sortir, qui s'appelle Plantes et chamanisme, c'est une série de discussions entre vous, Yann Kounen, et Vincent Ravalec et Jérémy Narby à ce sujet, et puis bien sûr, le travail de Marie-Laure Chic, le chaman qui téléphonait aux esprits, une ethnologue en Amazonie. Toutes les références de tous ces livres et films sont sur le site de l'émission. Merci beaucoup d'être passé tous les deux, on est en retard, je sais, à très bientôt. France Inter.